Qu'est-ce qui fait le moment historique? C'est intéressant de se poser la question à l'heure où la moitié de l'humanité a été appelée à rester chez elle puis à en sortir, à l'heure où la colère face à l'injustice et l'inégalité a saisi le monde entier, à l'heure surtout où l'on ne cesse de parler de monde d'avant et de monde d'après. Qu'est-ce qui fait le moment historique? Sinon cette impression, ce ressenti que le temps se contracte justement. C'est ça qui est fascinant, cette perception soudaine que ce qu'on est en train de vivre est un saisissement du passé, du présent et du futur. Cette idée folle que ce qui se construit sous nos yeux par une foule de discours, de partages, d'actions, porte à la fois une mémoire et une vision du futur. C'est ça qui fait événement, c'est l'épaisseur du temps, un moment présent gonflé de ce qui s'est passé auparavant et de ce qui va surgir ou survenir. Je me souviens de cet article où l'historienne Arlette Farge insistait aussi sur le champ de l'émotion. Un moment historique, ça n'est jamais neutre, ça existe autant dans l'adhésion que dans l'effroi ou l'indignation qu'il peut susciter. Le fait de le nier, de le conspuer ne suffit pas à lui enlever sa force et sa portée. En revanche, il faut savoir qu'il sera sans cesse réinterprété, reconstruit, relu selon l'époque où il sera reçu. Il est beaucoup plus fluide, mobile et complexe qu'on le croit, le moment historique. On peut le sentir, mais ce qu'il deviendra, ça, on ne sait pas.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'en est pas à son premier moment d'histoire. Elle est sans doute l'un des visages, l'une des voix, l'un des caractères les plus marquants du petit écran. Il y a 8 ans, avec 21 rue de la Boétie, elle revenait en écrivaine sur l'histoire de ses grands-parents maternels spoliés par les nazis sous l'occupation. Avec la rafle des notables, elle poursuit l'exploration d'un héritage et d'une mémoire qui lui échappe et se fraye un chemin à travers les silences d'une histoire méconnue, celle du camp de transit de Royallieu à Compiègne. Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour. Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce matin, tout d'abord, vous en avez vécu, hein, des moments historiques en tant que citoyenne en France, aux États-Unis, en tant que journaliste, évidemment aussi. Qu'est-ce qui caractérise ce moment où on se dit, c'est peut-être l'histoire qui est en train de s'écrire?
Quand on est journaliste, on a quelquefois l'impression de vivre des moments historiques, mais un peu comme un piéton sur le bord du trottoir qui regarde passer l'histoire. Je ne suis pas sûre qu'on prenne la dimension du moment que l'on vit. C'est-à-dire, moi je suis fascinée par les discours en ce moment sur le monde d'avant, le monde d'après. On est encore dans le monde du pendant.
Du pendant.
Et je pense pas qu'on prenne tout de suite la dimension. Marcel Mauss avait analysé ce qui était un fait sociologique, un fait social total, et c'est-à-dire qu'il y a une qui impacte sur la civilisation dans laquelle on est. Et je pense que on a vécu un fait social total dont on ne prendra peut-être la dimension que un peu plus tard. En tout cas, toutes ces dimensions.
Et la colère, Anne Sinclair, depuis le meurtre de George Floyd, que voyez-vous se déployer, s'exprimer sous vos yeux, pas seulement aux États-Unis, ici aussi, en France?
C'est très différent de ce qui se passe aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, ils ont le sentiment que l'histoire de la ségrégation, au fond, qui a été abolie par Lincoln d'abord, puis par les droits civiques ensuite, plus tard, n'est jamais vraiment entrée dans les faits, dans les mœurs, dans les têtes. Et ils ont donc une histoire qui se prolonge dans la violence et dans ce qui s'est passé d'abominable avec George Floyd, où c'est un meurtre. L'évidence. En France, c'est assez différent, c'est-à-dire que on absorbe l'histoire, on ne la regarde pas toujours dans sa globalité. Et je trouve que c'est ça qui est important, c'est d'en avoir un spectre général, c'est-à-dire que l'histoire, elle n'est pas unidimensionnelle, elle est multiple et elle a beaucoup de facettes.
La République n'effacera aucune trace de son histoire, a dit hier Emmanuel Macron. Comment vous la pensez, cette phrase, qui peut à bien des égards paraître problématique, puisque la République a bien sûr effacé toute une histoire minoritaire pendant longtemps?
Oui, je suis en gros d'accord avec cette phrase. C'est peut-être un des seuls moments où je suis d'accord dans l'allocution d'hier. Mais je suis d'accord parce que, en effet, il faut prendre la République, non pas comme la Révolution, comme un tout, mais il faut prendre la République dans tous ses aspects. Jules Ferry était un colonisateur parce que l'époque était colonisatrice et parce qu'il a voulu que l'école soit obligatoire, y compris dans les colonies. Mais il reste celui qui a rendu l'école obligatoire. Voltaire était un être, était un grand penseur du 18e, mais il était sexiste, homophobe, anti-juif, il était islamophobe, il était abominable de voir certains côtés, il reste un grand penseur. Donc je pense qu'il faut faire la place à la complexité de l'histoire et se l'approprier, cette complexité.
En tout cas, ce qui se joue en ce moment, c'est pas seulement une question de justice, c'est aussi une question de mémoire, on l'entend. Hein. Comment faire, Anne Sinclair, pour que les crimes commis envers un peuple, envers une communauté, ne soient pas oubliés?
Je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut en parler, témoigner, ne pas cacher des pans de notre histoire, comme on l'a fait trop souvent. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, où après la guerre, tout le monde était résistant. Puis il y a eu le moment où tout le monde est devenu collabo. Et puis le moment où, enfin, mais combien de temps après, on a rendu la complexité à ce moment-là. Moi, j'ai essayé de faire une recherche qui était plus une recherche de mémoire et de relais de mémoire que véritablement une recherche historique. Je suis pas historienne.
Oui, parce que cette question hante votre livre. Au début de la rafle des notables, vous parlez d'une obsession qui n'a cessé de grossir, de devenir plus oppressante. Quelle était-elle, cette obsession?
En fait, elle est double. Elle est sur la globalité de ce qu'a été l'extermination, qui est totalement incompréhensible pour quelqu'un d'un peu rationnel. Comment un pays cultivé, qui est et pas au Moyen-Âge, et qui aimait Goethe et Beethoven, a pu imaginer exterminer industriellement, c'est-à-dire vraiment avec une industrie tournée vers l'extermination, tout un peuple. Comment ça a pu germer dans la tête d'individus. Donc ça, c'était la première obsession. Et là, je dois dire, plus ça va, moins je comprends. La seconde obsession, elle était plus légère, mais c'était au fond de se dire je ne sais rien de l'histoire de ce grand-père, où on ne m'a pas vraiment raconté, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé entre décembre 41 et mars 42, et j'avais envie de comprendre ce qu'était cette rafle, ce qu'a été ce camp nazi à côté de Paris, et j'avais envie de, au fond, de redonner vie, non pas à mon grand-père, où j'ai très peu de documents sur lui, mais à tous ses compagnons. C'était une histoire qui était connue des spécialistes, une histoire connue des historiens, mais elle n'était pas connue du grand public. Et je me suis dit, le mémorial de la Shoah a fait énormément de choses, Serge Klarsfeld a fait énormément de choses pour que ces témoignages existent. Et moi, j'ai juste eu envie d'être un peu le haut-parleur et de les mettre à disposition.
Anne Sinclair, quand vous entendez des voix immédiatement mises à l'écart par les organisateurs de cette manifestation antiraciste, dire « sale juif », crier « sale juif », samedi, ça vous fait quoi?
Ça me fait mal. Et ça me fait peur. Quel était le rapport? Quel était le rapport avec le judaïsme ou avec la communauté juive dans cette recherche d'égalité entre les citoyens?
C'est la question. Pour quelles raisons assiste-t-on de manière cyclique dans la société française, mais pas seulement, au ressurgissement de réflexes, de violences antisémites?
C'est très troublant. Parce qu'aujourd'hui, enfin pendant tant d'années, ça a été tabou. C'était quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer. Alors c'est toujours condamné et condamnable, mais disons que les tabous se lèvent et que on a l'impression que les gens assument avec une certaine bonne conscience le fait. Le racisme, c'est pas une opinion. Le racisme, c'est un délit. On donne pas son opinion pour savoir quelle partie de la population on distingue. C'est très troublant de voir ça dans des pays occidentaux aujourd'hui. Alors en Europe orientale, ça ressort aussi comme antisémitisme d'État, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'Europe occidentale. Mais néanmoins. Mais comme c'est étrange et comme c'est dangereux.
Alors que faut-il faire? Raconter à nouveau, toujours, encore?
Oui, il faut raconter le passé pour que quand les témoins ont disparu, il y ait au moins des relais de mémoire et que certains se fassent le porte-parole de ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. Mais il faut surtout être attentif à ce qu'on appelle les signaux faibles, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas perdre la capacité d'indignation quand on prend l'habitude de voir des réfugiés qui meurent en Méditerranée, quand on vous prend l'habitude de dire il y a une partie de la population qu'on ne laissera pas entrer, c'est un petit parfum qui me déplaît.
Celle qui ne raconte pas grand-chose dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Anne, c'est la culture et son actualité sans vergogne. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 15 juin? Ne dites plus urbain, la Recording Academy qui organise chaque année les Grammy Awards a acté le changement de nom de sa catégorie meilleur album de musique urbaine qui devient meilleur album de R&B progressif. Une modification qui s'inscrit dans le mouvement de protestation contre les violences racistes aux États-Unis et fait suite au rejet du terme urbain par les grands acteurs de l'industrie musicale, radio, labels, artistes, qui jugent le mot flou, excluant, hypocrite.
Les gagnants sont Bertrand et Colotte Tavernier pour Un dimanche à la campagne.
Merci beaucoup.
Scénariste césarisée, Colotte Tavernier s'est éteinte dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris via l'Institut Lumière. Elle avait 75 ans, complice et ex-épouse du cinéaste Bertrand Tavernier. Elle avait signé les scénarios de certains de ses plus beaux films, notamment Un dimanche à la campagne, récompensé du César de la meilleure adaptation en 1985, ou L'Appa, ours d'or au Festival de Berlin en 1995. Elle avait travaillé avec Chabrol, Defer ou José Dayan. Ciao Colo.
My son, it is your time. Don't freeze.
I never freeze.
Mons et Marvel, en écho au mouvement Black Lives Matter, la maison d'édition Marvel a décidé de mettre en ligne gratuitement pendant un mois près d'une centaine de comics conçus par des artistes noirs. Une manière de célébrer les voix, les créateurs et les personnages noirs qui font partie intégrante de l'histoire de la maison, a annoncé Marvel dans un communiqué. Parmi eux, Vita Ayala, Roxane Gay et même Ta-Nehisi Coates.
Chicos.
Mon adolescence, c'était la guerre, hein. Donc, le refuge réel, c'était la musique, réellement.
Et enfin, importateur du punk en France, Marc Zermati. C'était un samedi, il avait 75 ans, disquaire, puis producteur, dandy de l'underground. Il avait contribué à fonder le festival de Mont-de-Marsan dès août 1976. Fondateur de l'Open Market, disquaire culte des Halles et point névralgique de la contre-culture parisienne. Il avait ensuite produit, fait tourner sur scène et connu des groupes et artistes aussi cultes que Bijou, Motorhead ou les New York Dolls, Punks Never Dead. Bien pour vous lancer ça, Punks Never Dead, Anne Sinclair, invitée de Boomerang pour la rafle des notables, un livre dans lequel vous racontez, on le disait, l'histoire de votre grand-père paternel, Léonce Schwartz, à l'aube du 12 décembre 1941, raflé, interné dans un camp de transit à Compiègne. Cette histoire dramatique et fatale, pour vous citer, elle est peu connue du grand public, effectivement, il se trouve que vous la connaissez mal, vous avouez vous-même que pendant longtemps, vous n'avez pas vraiment cherché à en savoir davantage. Pour quelle raison ?
C'est un mystère, l'incuriosité.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que on se contente d'une histoire qu'on vous raconte brièvement, que votre grand-père a été arrêté et qu'il a pu s'échapper avant de partir pour Auschwitz, même s'il est mort des suites de cet internement à Compiègne. Et au fond, comme j'avais peu de choses, je ne m'en étais contentée. Alors que, curieusement, dans la famille, les sujets n'étaient pas tabous. Ce sujet-là n'était pas tabou.
Mais vous dites, me manquent les questions, les réponses aux questions que je n'ai pas posées. Quelles étaient-elles les questions, précisément, que vous n'avez pas posées ?
Eh bien, sa surprise d'avoir été arrêté, parce qu'il faut savoir que le 12 décembre 41, mon grand-père vivait à Paris. Il n'y avait pas encore l'étoile jaune, qui est arrivée plus tard, mais il s'était fait recenser comme juif et il avait son nom dans le fichier qui s'appelle le fichier Tullard, le fichier juif à la préfecture de police, qui avait 150 000 noms. Et donc, qu'est-ce qui fait que la naïveté que j'aurais sans doute partagée, parce qu'on a justement sur un moment précis, on n'a pas l'ampleur de la focale, mais qu'est-ce qui fait que il ne s'est pas prémuni, pas caché, pas protégé? Qu'est-ce qui fait que quand il s'est trouvé à Compiègne, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce qu'il s'est dit, on nous met là parce qu'on va nous transporter à l'Est? L'Est, c'était un grand fantasme. On ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est dit quand on lui a dit, vous emportez une couverture? Il s'est dit, bon, on m'a demandé une couverture, mais on m'a pas demandé des vêtements chauds, donc ça veut dire qu'on va pas me déporter très loin. Cette interrogation sur le lendemain dans un processus de folie, de l'extermination bureaucratique et industrielle.
C'est fou quand même, Anne Sinclair. Vous, dont la vie a été de questionner, d'interroger les gens, c'est fou quand même que vous n'ayez pas posé ces questions.
Mais je ne les ai pas posées parce que mon grand-père était mort, de toute façon, que ma grand-mère, j'étais jeune, mais j'aurais pu en effet demander à mon père, dont je me demande si, comme il est revenu à la fin de la guerre, après avoir passé la guerre dans les forces françaises libres au Proche-Orient, chez De Gaulle, n'avait pas lui non plus voulu revivre et oublier un peu tout ça.
Alors justement, après, du coup, il faut composer avec des bribes, il faut composer avec des silences. Comment on fait pour se contenter du silence, Anne Sinclair ?
Moi, je me suis beaucoup plus intéressée à la vie d'aujourd'hui qu'à la vie d'hier. C'est vrai que j'ai préféré la vie de journaliste au regard qu'on porte sur la famille et puis finalement... que quand on vieillit, on a envie de rassembler un peu toutes ces racines et essayer de les comprendre. Et c'est devenu à partir de là. Je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que c'était que cette rafle qui est à la fois peu connue, mais qui a été la première qui a envoyé un convoi de juifs français à Auschwitz? Ça a été le premier acte de déportation de juifs de France. Donc, en découvrant ça, je me suis dit... mais il faut le dire aux gens, il faut que cette histoire soit connue.
Comment votre famille est-elle parvenue après-guerre à renouveler sa confiance en la France, la France qui sur la question de l'extermination des juifs a fait preuve d'un certain zèle, vous le racontez ?
Un zèle certain même. Oui, en l'occurrence, là dans l'histoire que je raconte, les nazis étaient à la manœuvre. Là, pour une fois, la France de Vichy n'a fait qu'accompagner le mouvement, a très peu protesté, mais n'a pas été aussi présente à la manœuvre qu'elle l'a été plus tard, et notamment dans la rafle du Veldiv. Comment est-ce qu'on fait ? Mais ça, c'est le mystère de la vie d'abord, de l'appartenance à une nation où on se croit vraiment citoyen de cette nation, quels que soient ses crimes ou ses errements. Et d'ailleurs, ces hommes enfermés à Compiègne, c'est ça qui était extraordinaire. C'était qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, parce que ils étaient intégrés depuis toujours.
Ils partageaient une grande idée de la France, ouais.
Oui, et puis ils disaient, la France nous a beaucoup donné, mais nous avons beaucoup donné à la France. Oui. Nous sommes anciens combattants de la guerre de 14, nous sommes intégrés à la vie nationale. Qu'est-ce qui fait que la France... nous abandonne.
Pour vous, ça veut dire quoi, être française, Anne Sinclair ?
Ça veut dire appartenir à une histoire, la vivre, en être consciente, l'aimer. Ça veut dire me trouver solidaire ou hostile au combat du moment. Ça veut dire participer à la vie nationale et me sentir oui, pleinement citoyenne.
Et être juive ?
Être juif, ça appartient, ça relève de, là aussi, de l'appartenance à une culture, à une histoire. Chez moi, ça n'a rien de religieux. Comment dirais-je? Oui, c'est culturel, avant tout.
Vous écrivez, je crois que mon grand-père partageait le sentiment de ces Français à la fois juifs et laïcs et leur refus d'être réduits à leur appartenance. Page 94. Aujourd'hui, comment on fait pour s'affranchir, justement, de ces étiquettes que l'on tente à tout prix de nous coller aussi?
Oui, je crois qu'il faut pas s'affranchir, il faut les additionner, les étiquettes. Moi, je suis femme française, juive, journaliste, aimant la vie, aimant vivre dans mon pays, aimant voyager. Enfin, on est la somme d'un certain nombre de caractéristiques qu'il faut assumer. Et ces hommes dont vous parlez, ils ne comprenaient pas pourquoi... Au fond, alors qu'ils se sentaient français, qu'ils étaient français depuis des générations, pourquoi la France leur faisait ça? Ou plus exactement, pourquoi la France les abandonnait? Et donc, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Et ce qui est intéressant, et ce que je raconte, c'est que au camp de Compiègne, il y avait ces raflés de juifs de France qui étaient là, mais on a aussi amené 300 juifs étrangers qui, eux, n'avaient pas la même perception. C'est-à-dire, ils venaient de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, et ils avaient vécu les pogroms, la discrimination, les persécutions. Et au fond, ils expliquaient aux juifs de France qui étaient là et qui se disaient « mais il y a une erreur, c'est pas possible ». Ils leur expliquaient « non ». Les nazis veulent que tout juif, quelle que soit son intégration dans une société, tout juif se sente voué à l'extermination.
On va reparler d'identité multiple, de France, de liberté, de mémoire aussi, juste après Barbara. Göttingen, en 1965, vous êtes sur France Inter avec Anne Sinclair. Vous écoutez Boomerang.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, là. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, ce qui frappe, et la peintre Marie Laurencin qui réalisait son portrait à l'âge de 4 ans ne s'y était pas trompée, sont évidemment ses yeux, d'un bleu si profond qu'on a aussitôt envie de s'y plonger. Elle a le sourire bienveillant, c'est très à la mode, la bienveillance, il paraît, en ce moment, le regard toujours attentif, exigeant, le cheveu, un brin autoritaire, avec son pull, son haut, rose, ce matin, Anne Sinclair, invitée de Boomerang. Et ce livre dans lequel vous essayez de reconstituer les circonstances de l'arrestation de votre grand-père, et circonstances de son internement dans le camp de Royallieu à Compiègne, on en parlait. Pour écrire ce livre, Anne, vous vous êtes rendue sur les lieux, au 46 rue de Tocqueville, dans le 17e arrondissement de Paris, et à Compiègne. Pourquoi est-ce qu'il fallait voir ces lieux ?
Ça doit être un réflexe de journaliste. C'est l'envie de s'imprégner d'un lieu pour essayer de comprendre, et en fait on comprend rien.
Dans quelle mesure les lieux ont-ils une mémoire pour autant ?
Ah, les lieux portent la mémoire qu'on projette sur eux, ça, il n'y a pas de doute. Donc quand je me suis trouvée à cette adresse de la rue de Tocqueville, il ne s'est rien passé, simplement j'avais besoin de sentir cet immeuble pour sentir au fond ce qu'a été l'arrivée de la Gestapo et des Feld gendarmes et le départ de ces gens qui habitaient l'immeuble, parce que plusieurs personnes dans cet immeuble ont été raflées parce qu'ils étaient juifs. Et puis quand on va sur le camp de Compiègne, c'était aussi pour comprendre la topographie. Mmh. Encore que je pense que les lieux, quelquefois, ont un pouvoir d'évocation moindre que les livres.
Mais c'est intéressant quand même, parce que votre nom, il est désormais associé à une adresse, celle du 21 rue de la Boétie, qui était le titre de votre précédent livre. Quand il vous arrive de passer devant cette adresse-là, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Je vois la plaque que j'ai fait poser en mémoire de mon grand-père, et ça me réjouit parce que au fond j'ai redonné vie à ce grand-père-là.
Paul Rosenberg, collectionneur d'art contemporain.
Voilà, Paul Rosenberg était un grand collectionneur, un grand amateur de peinture, a été un grand marchand
et dont les œuvres ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, et puis surtout ce qui m'avait fait écrire ce livre, c'était que cette adresse du 21 rue La Boétie, l'ironie de l'histoire avait fait que temple de la beauté était devenu un centre de, une officine de la Gestapo. Oui. Et donc, c'était incroyablement ironique et j'ai voulu raconter la petite histoire qui croisait la grande histoire. Là, dans ce livre, c'est très différent. C'est pas sur mon grand-père que j'ai pas connu, mon grand-père paternel, cette fois. Je vous rassure, je n'ai que deux grands-pères, donc on s'arrêtera là. Mais c'était pas sur lui, c'était sur qu'est-ce qui s'est passé, comment comprendre ses compagnons, comment faire revivre les caractères extraordinaires de certains qui étaient là et qui luttaient par tous les moyens. Pensez donc que dans ce camp où on essayait de tuer les gens par la faim, par le froid, par la vermine, par la saleté, où tout le monde perdait entre 20 et 30 kilos en 3 mois, ils se réunissaient le soir pour des conférences, l'un sur la poésie, l'autre sur le théâtre, le troisième sur les grands procès d'assises, le quatrième sur les possibilités de la science. Et au fond, ils avaient la volonté de résister par la tête, oui. Par la tête et par le cœur, oui. Pour essayer de transmettre aux autres un petit moment de liberté.
Si je fais ce détour, Anne Sinclair, par votre autre livre et par votre histoire familiale, c'est parce que tout vous prédisposait à travailler dans le milieu de l'art. Or, très tôt, vers l'âge de 10 ans, votre unique obsession, c'est le journalisme. Cette façon de se détourner de l'héritage familial, de ne pas vous consacrer à l'art, comment est-ce que ça a été perçu, particulièrement par la famille de votre mère ?
Ma mère me le reprochait, me disait « tu t'intéresses pas aux histoires de la famille ». Elle aurait été si contente de savoir que j'avais écrit sur son propre père.
Mais pourquoi le journalisme ?
Alors le journalisme, c'est parce que à 10 ans, j'ai décidé d'être journaliste à la radio, parce que je trouvais que c'était un métier formidable, qui était un métier de compréhension du monde, en tout cas d'essai de compréhension du monde, et d'essayer de le transmettre, d'essayer de l'enseigner au fond. Peut-être j'aurais pu être prof parce que j'aime bien expliquer et j'aime bien donner les moyens de comprendre le réel. Et ça a été ça, journaliste. En fait, j'adorais le grand reportage, j'en ai quasiment jamais fait. J'ai fait du journalisme sédentaire, c'est-à-dire derrière un micro, le plus souvent comme vous, comme des tas d'autres. Mais au fond, l'idée de dire le monde est compliqué, complexe, et ben j'ai envie d'en apporter la substance aux citoyens.
Qu'est-ce que vous écoutiez à la radio, vous, du haut de vos 10 ans? Des politiques déjà?
J'écoutais la guerre d'Algérie. Pour moi, ça a été le premier contact. Je me souviens très bien que à l'époque, on n'avait pas la télé chez mes parents, et à l'âge de 10 ans, quand on a entendu le 13 mai 58, qui était un coup d'État en Algérie de l'Algérie française, le retour de Gaulle, j'arrivais pas à comprendre pourquoi De Gaulle, qui était ce personnage que mes parents admiraient, puisque pendant la guerre, ils avaient adhéré à cet homme, pour sa volonté de résistance, pourquoi là, il devenait subitement anti-gaulliste. Donc, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on m'explique. Alors, en quelques jours, ma mère a essayé de m'expliquer De Gaulle, la guerre d'Algérie, la résistance, la gauche, la droite. Enfin, j'ai eu une formation en accéléré et très dense.
C'est un texte sur la radio, justement, que vous nous avez écrit ce matin. Rien que pour nous, un texte que j'aimerais bien que vous nous lisiez.
Alors Augustin, ce matin, j'ai envie de célébrer la radio. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télévision, mais c'est la radio qui m'a donné le plus de joie. D'abord, c'est ce que je vous disais, le premier support audiovisuel auquel j'ai eu accès. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Nous n'avions pas la télé chez mes parents. Et aussi étrange que cela paraisse, ça n'a jamais fait de moi une paria à la récré. Personne, quand j'étais enfant, ne parlait du programme de la veille, personne ne connaissait les vedettes de la télé, et si dans quelques familles, on mentionnait Interville, ce n'était pas venu jusqu'à moi. C'est à l'âge de 10 ans, on vient de le dire, que je me suis mise à écouter la radio. Il faut dire que l'ORTF de ma jeunesse, ce n'était pas Radio France d'aujourd'hui. La parole y était empesée et la liberté éditoriale mince, mais la vie ne demandait qu'à rentrer, si bien qu'à 10 ans, pleine guerre d'Algérie, je me suis juré que mon métier serait d'être journaliste à la radio. Mes études finies, j'ai cherché du travail. Et là encore, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans, etc. Quand on cherchait du travail, on en trouvait. Et rendez-vous compte, Augustin, sans même traverser la rue. Et c'est à la radio que j'ai commencé. J'étais stagiaire, je portais les cafés dans les étages, je découpais les dépêches, je me prenais pour Albert Londres ou Joseph Kessel. Et pourtant, je faisais rien. Rien d'utile ou de remarquable. J'apprenais le montage et je vibrais au bulletin d'information. La télévision a ses charmes, mais elle reste un spectacle. Il faut s'y coiffer, s'y maquiller, être dans la lumière. La couleur du pull que l'on porte prime sur l'idée qu'on développe. Tandis qu'à la radio, on continue la conversation amorcée dans le couloir. Il n'y a aucune afféterie. Pendant la crise du Covid à la télé, c'était les mêmes images en boucle. D'une chaîne l'autre, le décompte des morts, les reportages dans les couloirs des hôpitaux, les réanimations acrobatiques ou les images des patients étaient tellement floutés qu'on était sûr que dans leur lit, ils étaient au plus mal. Tandis que la radio était une compagne plus douce. On ne s'est pas contenté de l'écouter comme avant, on a même avec elle redécouvert les vertus du téléphone. On imaginait Nicolas Demorand et Léa Salamé tout seuls dans leur studio, avec tous les chroniqueurs en duplex, au téléphone, chez eux en pyjama, comme nous. C'était plus intime. Charline Vodanaker et Dominique Seux ne s'envoyaient même plus de piques et les lettres que vous lisiez le matin, Augustin, étaient parfois si jolies. Je me suis sentie plus libre, moins rivée aux images stressantes qui au début vous happaient tout entier. Allez, c'est décidé, dans un monde sans Covid, si un jour je deviens journaliste, Augustin, je ferai de la radio.
Merci tellement, Anne Sinclair, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la rafle des notables, votre nouveau livre est publié chez Grasset. Je dois vous dire que c'était quelque chose pour nous quand même de vous recevoir ce matin pour plein de raisons. À commencer par le fait que vous m'avez initié, comme toute une génération, aux faits politiques, à une certaine conception aussi de l'entretien. Pour cela, je vous en remercie. Vraiment, tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you can't sleep in the morning, boy, you better close the night. And I wake up with this feeling in my body.
In the morning, Georgia Smith sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia, vous m'entendez?
Mais oui, Augustin. À demain.
À demain.